Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Muriel Caes au micro.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, Récréation sonore, fidèle à sa vocation, vous propose de découvrir une nouvelle autrice, Laurine Estrade, avec une de ses pièces sonores, Jeunesse 44. J'ai pu m'entretenir avec Laurine par visio. Bonjour Laurine, est-ce que tu voudrais bien te présenter aux auditeurs de Récréation sonore ?
Oui, bon, alors je m'appelle Laurine Estrade. À la base, je viens plutôt du documentaire audiovisuel, des films. Et depuis quelques années, j'ai pris le goût du son, des documentaires sonores. Pour sa légèreté dans l'action, on va dire. On attend moins longtemps que de faire un film. Et en fait, ça a ouvert tout un champ créatif qui me passionne maintenant.
D'accord. Donc, on va écouter Jeunesse 44 et puis on en reparle après.
Jeunesse 44, un documentaire de Laurine Estrade.
Mon enfance a été merveilleuse, merveilleuse. On était 6 enfants. Le grand-père devant la cheminée, qu'on avait un sur les genoux, un entre les jambes, et qui nous chantait des chansons. Quand j'entends le pays du sourire, que j'entends tout ça, je dis, mon Dieu.
Quand Dieu créa le monde, les hommes s'aimaient.
On jouait à la marelle, aux gendarmes et aux voleurs, hein. Et puis à la guerre aussi, comme tous les gamins.
Faut pas les tuer.
Prends-moi, c'est une bombe.
Mais hop, on allait jouer dehors. Et ma mère savait pas toujours où on était, hein. Dans les champs ou dans les chasses et tout ça. Et il y avait pas de barrière, hein, chez nous, hein.
Mais on faisait beaucoup de vélo. C'était notre principale distraction.
Le vélo, pour moi, c'était pour m'évader à droite, à gauche. On me disait, tu coucherais bientôt avec ton vélo, tu ne le quittes pas.
On se laissait vivre, on ne pensait à rien.
On allait à l'école, tous à pied. Quand il faisait vraiment, vraiment trop mauvais, qu'il y avait de la neige, tout ça, on n'y allait pas. Mes parents étaient agriculteurs. Ils avaient des vaches, ils avaient des moutons, ils avaient tout ça. Alors, il fallait qu'on emmène les moutons dans les pâtures, s'en occuper.
Et puis, maintenant, ils traitent. Mais maintenant, il fallait arracher l'herbe. Hein. Dans les champs, comme dans les jardins. Hein. Des fois, plusieurs hectares. Comme les champs de betteraves et tout. Toute gamine à 8 ans, je tirais déjà les vaches.
On a travaillé dur, très très dur. On était menés un peu à la baguette par nos parents. Il fallait que tout le monde écoute, parce qu'on était 7 frères et sœurs. Hein. Des 4 filles. Jeanne, Alice, Yvonne, Raymonde. Moi, la dernière.
Je jouais beaucoup à la poupée. Ah oui, j'avais une poupée que j'appelais Françoise. Elle était grande comme ça. J'ai appris à tricoter comme ça, ouais. À tricoter et à coudre pour ma poupée. Je la considérais comme mon enfant. Donc ma poupée, je lui donnais une éducation, si l'on peut dire, comme je recevais la mienne.
De toute façon, à l'époque, les enfants n'étaient pas beaucoup concernés. Hein. Dans les familles, quand il y avait un repas, une réunion ou autre, les enfants n'avaient pas le droit de parler.
On avait des parents qui ne tenaient pas à ce qu'on soit à côté de leur discussion. C'était un petit peu la règle. On ne devait pas savoir bien des choses qui auraient dû quand même être à notre portée, mais c'était comme ça.
On était quand même disciplinés. Hein. On était disciplinés. On faisait pas de bêtises trop pour envenimer les choses.
C'était aussi pire qu'à l'armée. On n'avait pas beaucoup le droit de parler. Et quand c'était sur la cour de récréation, il y avait toujours une ou deux bonnes sœurs qui nous surveillaient. Alors, quand elles nous voyaient parler, elles écoutaient ce qu'on disait. Mais il y en avait une qui était méchante. Elle s'occupait de la maternelle. Alors, les pauvres petits, fallait que ça marche droit.
Enfants et jeunes gens,
Jean Giraudoux,
filles et garçons, vous voici à la veille de la rentrée des classes. Dans quelques jours, vous allez regagner vos écoles. Et en effet, c'est à une mobilisation que vous répondez vous aussi, la seule que devraient connaître les peuples civilisés. Pendant que vos pères et vos frères sont appelés aux lisières de votre pays pour faire face à la guerre la plus monstrueuse, vous êtes appelés au centre de chacun de vos villages et de vos villes pour devenir la génération de la paix.
Quand la guerre a commencé, on devait avoir dans les 7 ans, je crois.
Et le matin, on se réveille, je me rappelle ma mère, qui appelle mon père et qui dit « c'est la guerre ». Oui, je ne sais pas si je réalise vraiment que ça s'écroule complètement, mais c'est un bouleversement général.
À cet âge-là, on enregistre certaines choses. Donc, quand même, on ressent ça, comme une angoisse, enfin. Et puis, on ne comprend pas tout. Hein.
Maman était très inquiète. Papa pleurait beaucoup. Il est allé se cacher un peu et pleurer. Il était malheureux. Et nous, ben, on était. Je crois qu'on se rendait pas trop compte, nous, de ce que c'était que la guerre. Hein.
La guerre ?
Ben, tout le monde en parlait. Et puis, il y avait des grandes affiches en ville. Déclaration de la guerre, place de l'hôtel de ville, sur les grilles de l'hôtel de ville.
Elle a entendu bien que les Allemands. Ils violaient les petites filles et ils coupaient les bras des petits garçons.
Ça me paraît un petit peu, si vous voulez, comme les histoires de guerre qu'on apprenait à l'école. Hein, vous voyez ? Par exemple, Napoléon ou les autres. Et là, c'était. Mais là, c'était en réel.
Ma grand-mère était belge. Quand la Belgique a été envahie, nos oncles et tantes de là-bas avaient dit « Dès que les Allemands entrent, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avec la Première Guerre. On part, on arrive en Normandie. » Si bien qu'il y avait une partie de la famille de ma grand-mère qui était sur les routes quand les Allemands sont arrivés. Elle les attendait. Elle était inquiète, ma grand-mère, qui était diabétique. On a fait une crise cardiaque. On l'a enterré quand les Allemands sont arrivés. On sortait de la messe huitaine. Les gens disent « rentrez vite, les Allemands arrivent ». Alors mon père aussitôt « vous les filles, vous camouflez-vous, restez là et sortez pas. Hein, vous restez là, on viendra vous chercher ». Et je m'en souviens, on a monté à une échelle et on a vu les Allemands accrocher le drapeau nazi à la mairie. Oui, ça nous a fait tout drôle hein, de voir le drapeau nazi.
Les Allemands rentrent partout, alors c'est la fuite. C'est là que j'ai vu l'exode. c'est-à-dire tous les gens qui se déplacent, les familles avec les poussettes, avec les charrettes, les paysans avec des troupeaux de vaches, les décharrettes avec les armoires, les lits, les tables, tout ce que les gens pouvaient emmener. Toute la journée, ils pensaient.
Les gens n'importe à pied, avec les baluchons. Et...
Il y avait la chienne, il y avait les vélos. C'est quand même cinq. Puis la petite chienne, Chouquette. J'étais chargé vraiment à bloc.
Il y avait du monde sur la route à ce moment-là.
Toute la France était dehors.
Vous rendez-vous compte, la débandade?
Moi, j'étais au volant. J'ai pris la voiture et j'ai conduit. Nous sommes allés dans les Charentes avec mon grand-père qui avait 85 ans, ma grand-mère 80 ans. Ben, il fallait bien que je conduise. Il y avait que moi qui conduisais. Et j'ai eu mon permis en janvier 40, parce qu'on a pu avoir le permis à 16 ans. Mais enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont parties sans permis.
On a connu l'exode en vélo. J'avais justement un moment. Mon papa était resté à l'usine pour travailler. Chaque sœur portait un des plus jeunes sur son vélo. Ma sœur aînée, elle avait, moi, elle avait 14 ans, donc elle avait 18 ans. Le plus jeune, il avait un an. Moi, j'allais chercher l'avitaillement pour tout le monde. Je partais devant mon vélo et tout ça. J'allais chercher dans les boulangeries, dans les charcuteries, pour trouver à manger. Les avions qui, des fois, venaient nous survoler et mitrailler sur les routes. Quand on les entendait arriver, on allait se coucher dans les fossés.
Alors, à Rennes, on arrive dans le flot des réfugiés. Ma mère demande des renseignements, il y a un militaire qui nous dit « Bon, ben écoutez, suivez-moi, je vais vous montrer où sont les camps. » Et à un moment donné, on s'est arrêté sur une place. Ma mère s'arrête, moi je reste au milieu de la rue. Tout d'un coup, j'appelle ma mère, je dis « Maman, il y a un avion et il perd quelque chose. » Alors là, il y a un militaire qui m'a attrapé. Et puis s'est couché avec moi dans le fossé. Les avions sont passés en mitraillant. C'est le premier truc où vraiment j'ai connu la guerre, quoi.
Une chambre libre.
Une chambre? Oh, mon bon garçon, avec tous les réfugiés qu'il y a ici, c'est tellement plein qu'on y caserait même pas les pingles.
Oh, vous savez, nous ne sommes pas exigeants. Oh. Si vous pouviez seulement nous donner un petit coin. Mmh. Nous venons de loin et ma femme est très fatiguée.
Les gens sonnaient à toutes les portes pour avoir un logement. C'était ma mère qui frappait aux portes. On s'est réfugié chez des vétérinaires, des gens charmants, enfin bon. On avait été bien reçus d'ailleurs.
On avait trouvé à se réfugier chez quelqu'un qui avait accepté. C'était un charcutier, je peux dire que c'était un charcutier puisque j'ai assisté à l'abattage d'un cochon. C'était la solidarité des gens. Hein. Alors quelquefois c'était gratuit, quelquefois c'était payant.
Puis alors, vous savez, les gens se rendaient service. Il y avait des histoires par moment, forcément, hein. Mais les gens se rendaient service un à l'autre. Ah oui, c'était bien.
Les gens étaient solidaires les uns les autres. Ils comprenaient les choses. Puis après, on a eu l'autorisation de rentrer chez nous. Alors, on a fait le chemin inverse.
On est toujours content de rentrer chez soi. On n'osait pas imaginer ce qui allait arriver.
Alors ça, c'est la surprise. Hein. On a traversé tout, l'exode, etc. Et c'était mes grands-parents qui gardaient la maison. Il y avait un balcon, et mes grands-parents, très décontractés. Tiens, la Raymonde et Francis. Rien, ils n'avaient pas vu les Allemands. Ils ne savaient pas ce que c'était que les Allemands. On a commencé à les voir parce qu'on est revenu au Havre, hein. là où j'en ai vu un de très près. Ils étaient en manœuvre, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et tout d'un coup, il y a un Allemand qui a frappé à la porte, la figure en sang. Il demandait s'il pouvait utiliser la fontaine en bas pour se laver la figure. Alors j'ai été lui faire couler l'eau. Ah, il avait la figure en sang. Il était tombé de son cheval. Il avait dû se ramasser une belle pelle, quoi.
À 9h du soir, le couvre-feu. Vous savez, mais combien de fois qu'on était à 11h dans les rues. Mais alors, heureusement, les Allemands faisaient du bruit avec leurs bottes. Alors, on disait, tiens, ils sont là.
Il y avait une limite de l'heure. Il ne fallait pas sortir après 10 ou 11h du soir.
On était punis. Alors, les Allemands nous punissaient. Couvre-feu à 9h.
Et il fallait qu'on ait aucune lumière le soir. Il n'y avait pas d'électricité. Mais il fallait s'éclairer avec de toutes petites lampes à l'huile et bien fermer les volets et mettre en plus des doubles rideaux, qu'il n'y ait aucune lumière.
Si on était pris la nuit, ils nous embarquaient tout de suite pour l'Allemagne. J'ai eu beaucoup de camarades qui sont partis. Comme ça, il y avait des balles clandestines, tout ça. Ils faisaient des rafles dans ces endroits-là. Et les jeunes gens, on les embarquait pour l'Allemagne pour travailler.
On en croisait dans la rue quand on allait à l'épicerie. Mais je zyotais avant, si c'était pas les Allemands. Puis c'était des grandes carcasses.
Ils passaient dans les rues, en rang, là, en marchaient au pas de loi. Ça m'a frappé quand même, hein. Le pas de loi.
Puis alors les bottes.
Et puis la semelle était en cuir avec des clous qu'ils leur mettaient dans la semelle. Ça faisait du boucan.
Avec leurs grosses chaussures et puis les yayas. Puis Raoust. On aurait bientôt appris l'allemand, la langue, hein. Ah ben oui.
Et baragminé, comme on appelait ça.
Puis alors, leur accent, épouvantable.
On avait peur des Allemands. Et alors, les Allemands sont arrivés, ils ont été corrects. Ils respectaient la femme.
Quand les SS étaient à la ferme, là, ils étaient assez violents. Et je vois ma sœur, qui était quand même une belle fille. Alors, exprès, ils lui faisaient coup d'un bouton. Puis il disait, belle fille, belle fille. Papa disait rien, mais regardez ça. Si bien que la nuit d'après, papa l'a emmenée plus loin pour la protéger.
Il y avait deux sortes d'Allemands. Il y avait les Allemands qui étaient comme nous et qui faisaient leur devoir de soldats, et il y avait les nazis.
Mon père, quand il a vu ça, quand il a vu tout ça, il a dit ça va durer. La guerre, c'est pas fini.
Papa et maman nous disaient allez de l'autre côté, allez de l'autre côté.
Ils nous enfermaient dans une autre pièce.
On se mettait de l'autre côté derrière la porte pour écouter. Mais ils ne nous voyaient pas.
Heureusement, oui.
Parce qu'il y en a eu qui n'étaient pas cachés, qui ont fait dodo, qui ont été assassinés.
Oh ben, dans la ferme, ils venaient, ils se servaient, hein. Il n'y avait rien à dire. Hein. Fallait baisser la tête. Fallait pas les regarder. Non, parce que celui qui réclamait, il avait une balle dans la tête.
Si on était à table, ils se servaient. Ils se servaient, ils prenaient ce qu'il y avait sur la table. Hein. Le beurre, et les œufs, n'importe. Même malgré la résistance de ma maman qui disait comme ça, mais vous voyez, il y a des enfants autour de la table, ils ont le droit de manger aussi, mais ils ne s'occupaient pas de ça. Non, non, ils se servaient.
Manger, manger. Maman dit, j'ai pas à manger. Manger, manger, puis la mitraillette, allez, manger, manger, puis la mitraillette vers nous, puis il y avait que des œufs. Je verrai toujours maman en train de faire une omelette. Et puis, ma foi, ils ont mangé, puis ils sont partis.
mais je verrai toujours cette mitraillette qui était dirigée sur nous.
Ça me choquait. Quand on est une petite fille de cet âge-là, j'avais 8 ans. Ben moi, je passais mon temps à quatre pattes dans l'angle de la grande pièce, sous une table. Ben, j'étais planquée là-dessous. Puis j'attendais que le temps passe. Je les entendais parler. Il y a eu des personnes de tuer. Quand il y avait quelqu'un qui était mort, ça sonnait. Alors, j'aime mieux vous dire qu'il y en avait des sons de cloches super tristes.
J'avais peur de rien, moi. Oh, oui, moi, quand ils me cassaient les oreilles, j'avais pas froid trop aux yeux. Je disais ce que je pensais. Et pas trop non plus qu'ils viennent me piler sur le pied. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Vous venez manger le peu de pain que nous avons? Ils me faisaient pas peur, ils savaient que je les regardais droit dans les yeux. Il tapait encore plus du pied avec ses bottes en cuir. Ah ouais, on n'était pas copains. Hein. Ah non, on se faisait pas des sourires. Il y avait quand même des soldats allemands et qui n'étaient pas faciles. Oh, j'étais dans les dizaines d'années, là. J'étais qu'une gamine. Je grandissais. Mais j'étais maigrichonne, j'étais pas gênée par la graisse. C'était mon tempérament, hein. Je disais ce que j'avais à dire, c'était la franchise, puis ça y allait, hein. Il y en avait des autres qui faisaient de la résistance, ils étaient camouflés, ils disaient « Attention, mademoiselle, attention ». Ah ben oui, ils disaient « Calme-toi, parce que tu sais, c'est ton père qui peut arrêter ». Papa me disait « Fais attention », maman me disait « Prends garde. Moi, ça m'empêchait pas de dormir.
Le maréchal Pétain.
Quel bonheur, mes enfants, de vous parler ce soir de Noël. Oh, je sais que tout n'est pas gai aujourd'hui pour les enfants de France. Il y avait une fois la France. Les nations, vous savez, sont comme des dames plus ou moins belles, bonnes et braves.
On continue à jouer, nous les gamins, mais enfin quand même, c'est pas la joie. Hein. Et puis il y en a, ça va bien, il y en a, ça va pas bien. Hein. Comme on dit maintenant, ils sont traumatisés, quoi.
Ça, c'est le grand cauchemar. Ah, ça, ils en ont fait voir aux malheureux juifs. Même à leurs enfants. J'admettais pas ça. Il y en avait été de mon âge, même en dessous de mon âge. Ça laisse. Ça passait pas chez moi.
Un résistant que nous connaissions bien, qui m'ont demandé d'aller porter soi-disant de la nourriture dans les bois. Bon, moi j'ai pris mon vélo et je suis partie porter de la nourriture. Mais en réalité, c'était des messages. Par la suite, on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait. Et moi, ça m'avait un petit peu secoué. Là, on commençait à prendre conscience. On vieillissait et on voyait davantage ce qui pouvait être un danger.
Mon cousin, un cousin de mon père, était chef d'un réseau de la résistance à Paris, le CRDL. Mon grand-père, qui habitait la campagne tout seul, auprès d'un marais, était son agent de liaison, c'est-à-dire que quand il y avait des missions de résistants de Londres qui venaient en France, ils étaient parachutés d'un champ derrière chez lui et il aimait la pêche à la ligne. Alors, il nous avait initié à fabriquer une gaule, et puis ça nous amusait. Hein. À 12-13 ans, on aimait bien. Et on allait pêcher, et on était fiers de ramener un poisson le soir. Et souvent, il me disait, tu me surveilles ma ligne? Et il faisait le tour des clos. C'est là que j'avais dit un jour, un moment, pépère, je ne sais pas pourquoi, il marche tout le temps autour des clos. Il me dit qu'il avait besoin de marcher, mais je trouve ça un petit peu drôle. Alors quand il y avait un message, je ne savais pas à l'époque, mais on entendait les messages, le François dit de veiller à pousser des carottes ou des choses, on ne savait pas ce que ça voulait dire, nous, mais au fait, mon grand-père captait des messages comme ça. Il avait des codes avec lui. Telle lettre disait telle chose, telle lettre disait l'autre chose.
Gabriel garde l'anonyme. Le manchot l'affaire dans ses bras. Nous disons le manchot l'affaire dans ses bras deux fois.
César a lâché ses trois lions. Papa était un résistant. On n'était pas informés parce qu'on était trop jeunes, mais on voyait quand même bien ce qui se préparait. Hein. Il y avait des armes, enfin des armes, c'était peut-être des revolvers, je pense que c'était comme arme, hein, dans les niches à lapins. Et le jour que papa était arrêté, ils sont venus à 7 heures le matin taper à la porte. Ils l'ont emmené dans le garage et puis c'est là qu'ils l'ont torturé dans le garage. On l'entendait crier alors donc. Puis après, ils l'avaient attaché au pied d'un pommier et ils avaient mis le feu. Alors il y en a qui voyaient ça, ils l'ont dit mais ils vont le laisser brûler, mais enfin ils l'ont détaché. Et puis après, bon ben ils l'ont emmené au camp de Neuengamme. Oui, ça a été une drôle journée. Puis on n'a jamais entendu parler de lui. Pour maman, ça a toujours été vraiment quelque chose de dur à vivre. Elle croyait toujours qu'il reviendrait. Alors. On a beau avoir 10 ans, 10, 12 ans, est-ce qu'on réalise vraiment à quel point était le danger? La veille que papa a été arrêté, je lui ai dit, ben nous, on reste ici, il n'y a pas de risque pour nous. Oh ben, il m'a dit, non, c'est pas nous qui recherchent. Et puis, vous voyez, le lendemain matin, ils étaient là. Il m'a dit, oui, c'est pour nous qui recherchent. Il a été arrêté le 5 juin, la veille du débarquement. Donc, il n'y en a pas eu d'autres d'arrêtés, et apparemment, papa n'en a jamais dénoncé d'autres.
Ils étaient par là, les résistants, se camouflaient. Ils faisaient des trous en terre, se mettaient dans des petits souterrains, puis se mettaient là-dedans. Les maquisards se cachaient là-dedans. Ben, vous descendiez, vous savez, il y avait des petites marches de fête. Et puis, ben, dans le fond, il y avait un couloir, quoi. Moi, j'aimais pas beaucoup être dans leur baraque, là, souterraine. Hein. J'aimais mieux être dehors, moi. Puis moi, je sifflais ou je sautais d'une patte sur l'autre comme une pie. Je leur sifflotais. Les gars étaient contents, les résistants. Parce que c'est signe qu'il faut faire attention. Et puis si on a envie de siffloter, qu'on siffle la Marseillaise ou qu'on siffle le chant du départ, et ça y allait. Bon, moi je leur chantonnais, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mais j'étais une résistante. Ben oui, pour mon âge, j'avais une double vie. Oh, j'en parlais pas à grand-mère. Grand-mère n'aurait pas dormi. Grand-mère aurait perdu la boule, pauvre mère. On disait rien. Ah, qu'est-ce que tu en sais sur la résistance? Oui, oh ben tu sais. Oh, ça va, t'inquiète pas, grand-mère. Faire de la résistance, mais pas en parler. Ça ouvre les yeux. Ouais, ça ouvre les yeux. On voit et on se tait.
Hé, Pérorel, Il y a plein d'Allemands qui montent le chemin qui vient de la rivière. Oh, mon père, il dit, s'ils viennent de par la rivière, c'est pas des Allemands, c'est des Américains.
Les régions côtières de la France occupées risquent de devenir de plus en plus le théâtre d'opérations de guerre. Elles entraîneront forcément les dangers les plus graves pour les populations civiles.
Le matin du débarquement, il était heureux, il pleurait de joie, il disait « Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. » Alors, il passait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de chaque côté, des soldats qui marchaient à pied et qui nous ont jetés. Alors là, c'était la joie, vous savez, des chewing-gums qu'on ne savait pas ce que c'était, des préservatifs qu'on croyait que c'était des ballons.
Oh, nous sommes tellement contents, very happy.
Tout le monde courait, on était comme des fous.
Tout le monde chantait et se trouvait heureux, bien sûr.
Parce que on avait l'impression d'être libérés.
Ils arrivent, ils sont là, c'était, je me rappelle, un vendredi. Donc tous les gamins partent en vélo. Et là, il y a une colonne britannique qui arrive avec un monsieur qui les guide. Et puis, mais comment ils font ? Mais c'est ton père ! Voilà. Comment fais-nous couvrir ça ? Mon père était dans la résistance et gaulliste de la première heure. Il avait son calot avec ses galons de caporal, puisqu'il était caporal. Il avait sa veste de chasse. Il avait quand même son ceinturon militaire. Il avait son pantalon de chasse. Voilà. Et puis, c'est le brassard bleu, blanc, rouge.
Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Toute une armée. Un mot qui m'a frappé. Quasiment. C'était des Canadiens pour dire quasiment.
Ils passaient, ils nous donnaient des bonbons, des friandises, des cigarettes.
Puis les boîtes de conserve, tout ça. Les sardines, puis des bonnes sardines. Je me rappelle des bonnes sardines. On ramenait ça à la maison, puis on partait aussitôt. Ils ne nous reconnaissaient pas à chaque fois, hein. Allez hop, on avait un petit ravitaillement chaque fois, oui.
Il y avait un grand noir costaud, il était assis au pied d'un pommier, il avait un petit tas de gaufrettes devant lui. Alors il y avait mon frère et moi, bon, ben, moi j'avais 11 ans, mon frère avait 8 ans. On regardait les soldats, mais on regardait aussi les gaufrettes. Ben, il nous les a données.
Il y avait un hôpital de campagne qui s'est créé dès le lendemain du débarquement, qui s'est installé dans les champs, la ferme où j'habitais. Et moi, on m'envoyait des civils. Tout d'un coup, une voiture de Croix-Rouge américaine qui arrive devant la maison, il en sort un brancard, et puis il me débarque, une petite jeune, toute nue dans un drap. Ils avaient dû la déshabiller pour lui donner premier secours. Sa mère avait été tuée dans la tranchée à côté d'elle, mais elle avait eu un éclat d'obus qui avait traversé le poumon. Donc il fallait la soigner d'urgence, donc... Là, avec grâce au médecin, quoi, on l'a réussi à la sauver pour le moment, mais il fallait qu'elle soit opérée. On a pu la faire passer à Bayeux 8 jours après, et elle s'en est sortie. Elle avait une quinzaine d'années, hein. Oui, vous savez, ça fait drôle quand vous voyez une petite comme ça et qui souffrait.
À l'école, on nous a demandé une fois des volontaires pour aller évacuer les gens. Donc j'en ai fait partie. Puis on avait une charrette à bras. Et ils ne pouvaient pas emporter tout. Les gens pleuraient. C'est triste. C'est abominable. Les premiers bombardements, c'était bombardement allemand. Après, ça a été bombardement anglais. Puis alors, à la fin, le grand bombardement 14, quoi.
Un petit avion américain qui vient au-dessus, comme ça. Mon père, il dit, oh là là. 10 minutes, un quart d'heure après, j'ai mieux vous dire que les obus, ça tombait un peu partout.
J'avais peur des avions. En patois, je disais, j'ai pou du tuézé, j'ai peur de l'oiseau. Et alors, il se disait, elle va encore nous faire une crise. Alors, il m'emmenait avec mon assiette, la fourchette, j'allais finir mon repas dans le chemin.
Quand ça se mettait à ronfler, le bruit que ça faisait, oui. Les bombardements d'avions.
Alors, tout le monde se planquait. Et moi, j'étais restée à table, à manger mon œuf sur le plat, J'avais 8 ans. Alors, maman dit, ben oui, c'est normal. Elle, elle n'a pas peur parce qu'elle ne se rend pas compte à son âge. Ma sœur, il paraît qu'elle était verte.
Faut dire qu'ils bombardaient partout. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de maison, quoi.
Il n'y avait plus rien, rien. Pas une maison, rien, rien, rien.
Ça secouait beaucoup la maison, mais on avait peur, alors on couchait à quatre dans le même lit. Ça bougeait tellement. Papa dit, ça va nous tomber sur le dos. On est allé dans un champ. Et je vois encore mon frère, il avait pris des redons pour que mon grand-père puisse s'asseoir dessus.
Quand ça a été bombardé la nuit, Argentan, eh ben, on aurait pu lire le journal. Avec la lueur des incendies, hein, tellement ça flambait.
On voyait les balles traçantes de toutes les couleurs. Ça faisait joli, remarquer.
Je suis descendu dans le Havre. Il n'y avait plus rien, on a traversé des décombres. Il n'y avait que ça, que ça, que ça, que ça. C'est un cimetière. On était en train de sortir les corps qui avaient été enterrés provisoirement pour les mettre dans des cercueils. Et un silence. Il y a un grand, grand silence. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chats, plus de chiens. Il n'y a rien. Il y a des rats. Mais il y a une chose, c'est l'odeur. L'odeur de la pierre cassée, l'odeur du feu, et puis l'odeur de la mort. C'est là que j'ai découvert l'odeur de la mort.
Papa avait fait une tranchée.
On avait une belle tranchée, solide, avec tout le confort. Oui, puis là, on avait des banquettes.
On était peut-être à 15 là-dedans.
Eh bien, on attendait, on chantait. C'était des chansons, des chansons d'enfants, des choses rassurantes. Le clair de la lune, mon ami Pierrot. On chantait des choses comme ça, quoi, ou à leur frère Jacques, ou des choses d'enfants.
La meunière du moulin moue du maïs. Le mari de la meunière emmène le mouton. Le mouton mange le maïs de la meunière. Dans le livre de lecture, on voit le mouton plus grand que la meunière. Il y a des bosses blanches tout autour de lui, c'est de la laine.
Mais moi, j'ai vu des soldats américains et allemands se battre à la baïonnette, comme on voit dans les films. Enfin, si on bougeait pas, mais on les voyait bien se battre, hein, comme des chiens. Puis vous en voyez un qui tombe. Il est mort par terre, comme ça, il y en a qui bougeaient encore, puis d'autres qui étaient bien raides. Premier Allemand que j'ai vu mort, il était resté debout, là, mort, debout. Le poing sur la joue et le coude dans le chambranle de la porte, comme ça, comme s'il discutait avec quelqu'un. On allait traîner, nous, les gamins, dans la plaine de Chambord. On voyait des morts par dizaines, des chevaux tellement enflés qui étaient en train, qui avaient été tués dans les betteraves, dans le, on voyait tout ça, on allait se balader dans tout ça. Ben, j'avais 11 ans. Je me rappelle bien. Même un jour, on était en train de fouiller où il y avait eu un bus allemand avec des soldats dedans qui avaient été mitraillés, puis tout était éparpillé. Il y a un monsieur qui me dit, hey, « Hé, toi, petit gars, donne-moi ce que t'as dans la main. » C'était un beau revolver comme ça. Si ça se trouve, il était chargé.
Tout le monde dansait, hein. Toutes les petites communes dansaient, hein.
Ils dansaient avec les soldats. Il y avait Germaine, Georgette, Jacqueline, moi.
Tout le monde dansait, vieux comme jeune. J'étais corps gamine, hein, j'avais mes 12 ans, dans les 12 ans. Danser la valse, le tango, tout ça, tout ça, la rumba. Alors mon grand-père n'aimait pas que je danse la rumba. Il était frotté le ventre contre le ventre, il aimait pour ça.
Les Américains étaient bien moins pudiques. Juste à côté de chez mes parents, il y avait un camp. Ma mère lavait leur linge. Alors, on allait porter le paquet quand c'était prêt. Ils nous payaient bien et tout ça. Mais ils n'étaient pas sérieux. Malheureusement, des fois, on a vu des choses que des enfants de notre âge auraient... Enfin, j'avais 13-14 ans, mais n'auraient pas dû voir, quoi.
Il y avait le camp d'Américains, ils accostaient les filles, et puis partir, ils dessinaient des sexes. Alors ils dessinaient un sexe féminin, puis après ils dessinaient le sexe masculin. À nous, les gamins, qu'on avait 11 ans, 12 ans, je vais vous dire, ça nous intéressait aussi. La fille, elle comprenait tout de suite.
Ici, c'était Chicago, hein. Les femmes ne sortaient pas le soir, non accompagnées. C'était fou le trafic qu'il pouvait y avoir avec les Américains. Vous avez dû entendre parler quand même des viols qu'il y a eu de l'armée américaine.
Et mais moi j'avais peur, les Américains. Il y en a qui avaient fait des bêtises. Des belles saloperies.
Nous, ce qui nous semblait drôle étant gamin, il y avait des gens qui avaient plus peur des Noirs que des Allemands. Le soir, il y avait des Noirs là dans le chemin et dans l'herbage. Je vous garantis que toutes les portes c'était fermé à clé, un double tour. J'ai une nièce, Ida. Elle est née sous les bombardements et sous les obus et tout. Fallait un médecin. Alors, mon beau-frère, il explique ça à un soldat allemand qui avait compris. Alors, le soldat allemand, le chef des soldats allemands, il a passé les lignes allemandes pour aller trouver les Américains. Et les Américains ont envoyé un soldat médecin pour accoucher ma sœur, avec les Allemands tout autour. Ils s'étaient entendus pour accoucher ma sœur. Des ennemis, vous vous rendez compte? Eh bien, ça a marché. L'homme n'est pas si mauvais que ça.
Le 8 mai, donc, les cloches sonnaient partout. Ah ben, femme et petit gant, ça va bien la fin de la guerre.
On chante la Marseillaise dans toute la ville. Le jour tombe. Mon amour mort est un ennemi de la France. Quelqu'un dit qu'il faut la faire se promener en ville. La pharmacie de mon père est fermée pour cause de déshonneur. Je suis seule.
Je hais l'après-guerre, les règlements de compte qui étaient souvent des choses de jalousie et pas toujours réelles.
Après la guerre, il y a eu des dames qui ont fait la vie, des femmes, des jeunes femmes qui ont fait la vie avec les Allemands. Elle me rappelle qu'une fois, il y avait une qui était très gentille autrement. La résistance l'ont emmenée et l'a traînée. Et elle était enceinte d'une petite fille.
Dans le pays à côté, il y a eu une personne qui lui a coupé les cheveux, une femme. Ben, elle était montrée du doigt, forcément.
Une bande de filles en vélo, avec la mitraillette et puis tout ce qui s'en suit. Alors il s'arrête, il me dit où c'est que ta mère? Ben, je suis sûrement à la maison. Et ta sœur? Ben, je dis aussi sûrement. Et puis toi, viens pas parce qu'on s'en va la tuer. Et c'est lui qui m'a coupé les cheveux à ma mère. Ma mère, c'est collaboratrice. Elle vendait des animaux et du beurre, elle vendait aux Allemands. Elle m'a fait du mal. C'est terrible quand vous avez ça dans votre famille, que vous savez que ça n'arrive plus rien. C'est une sœur qui est en Amérique. Ben, parce qu'elle a connu un Américain pendant la guerre. Et puis elle est partie, elle dit, toute seule. Et là, elle est à Las Vegas.
Ah, c'était violent, oui. C'était violent, mais nous, les gamins, on en était un peu détachés de ça. On en entendait parler. On n'assistait pas. Moi, je n'ai pas assisté à la tombe des femmes. Hein. De toute façon, mon père ne l'aurait pas permis. Il était contre ça, lui aussi. C'est pas des façons de faire. Ouais. Vous savez, c'est ceux qui faisaient ça, c'était les résistants de la dernière minute.
Mes cheveux repoussent. À ma main, chaque jour, je le sens. Oh, ça m'est égal. Mais quand même, mes cheveux repoussent.
C'est bien les honneurs, c'est bien les honneurs. Mais nous, on est seulement
satisfait ou satisfaite de ce qu'on avait fait. Voilà. Qu'on avait pu les enrayer leur réseau. Voilà. C'est ça notre grandeur. Les filles, mes camarades me disaient, tu n'es plus ce que tu étais, Geneviève. Tu as vu ton caractère aussi gai. Ah, j'ai... Oh, si, encore. Oh oui, mais pas comme avant. Hein. Mais je dis, vous en faites pas. Je vais quand même rester amusante un peu. Ça transforme. Ouais, ça transforme.
J'avais 13 ans quand la guerre s'est déclarée et 18 au débarquement. Pour les gens de ma génération, c'est toute notre jeunesse qui a été impactée par la guerre. Ça nous a obligés à sortir de l'insouciance des enfants. L'histoire, on l'a fait pas, on l'a subi. Hein. J'aurais jamais cru vivre tout ça, c'est sûr. Mais bon, ça guérit aussi. Ça vous aide à comprendre beaucoup de choses aussi.
Et on y pense encore des fois. Le souhait que l'on a maintenant, qu'on ne revoit plus des choses comme ça. Quand ils parlent de la guerre, des fois, on se dit ça y est. Mais non, pour l'instant, tout est calme.
C'est comme ça. Tant que reste en vie, ça va. C'est drôle.
Genèse 44, un documentaire réalisé par Laurine Estrade avec la complicité de Jean-Baptiste Bonnet, mixage Vincent Venet, avec Lucienne, Gérard, Antoinette, Denise, Édouard, Raymonde, Thérèse, Jeanne, André, Geneviève, Denise et Jean, Eliane, Madeleine, Claude et Monique, André, Marie et Suzanne. Remerciements, Pascal Tison, Christine Delpy, Valérie Gann, Mathilde et Laurent Sengrave, Bruno Langevin, Claire Latzag, Sophie Renard, Sylvie Salle, Marlène Thibon et Mackenzie. Avec le soutien de Parouidir, de Habilis Productions et de l'aide au podcast et à la création radiophonique du ministère de la Culture.
Sonore.
Alors la première question que je souhaitais te poser, c'est comment t'es venue l'idée et comment as-tu rencontré les gens ? Est-ce que l'idée est venue avant les gens ou après ?
On va dire qu'une rencontre est à l'origine de l'idée. En fait, j'habite en Normandie depuis plus de 10 ans et j'avais remarqué que dans mon voisinage ou par contact comme ça avec des gens, je rencontrais des personnes âgées qui avaient connu cette période de la Seconde Guerre mondiale et en particulier le débarquement. Et c'était un peu la première fois que j'avais des récits de ce moment du débarquement qui collait pas forcément avec la façon dont j'avais compris le moment, l'événement dans mes livres d'histoire quand j'étais plus jeune, enfant, et que je voyais à quel point ça avait été un moment terrible avec des bombardements, des pertes humaines, etc. Et donc ça me trottait dans la tête depuis longtemps, l'envie de les entendre, ces personnes. Et puis j'avais cette conscience aussi qu'ils étaient très âgés. Et donc voilà, ça a germé comme ça. Et, En travaillant sur un autre projet autour de la guerre d'Algérie, où j'ai rencontré une personne aussi en Normandie, qui avait vécu son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale en Normandie, j'ai vu que très vite, en fait, parler d'une guerre, ça ramenait à cette guerre presque fondatrice pour elle, qu'elle avait vécue pendant l'enfance. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, bah, c'est ça que je veux raconter, c'est comment... dans une enfance, on peut retrouver les traces d'une guerre et entendre ces derniers mots des derniers témoins d'une époque que j'ai lancé une sorte d'appel à témoignage dans mon entourage. Donc, via une sorte de bouche à oreille, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai aussi contacté autour de chez moi les EHPAD, enfin les structures qui accueillent des personnes âgées. Et j'ai eu la grande chance d'avoir une personne, une animatrice. Qui m'a répondu, qui m'a ouvert les portes comme ça de plusieurs établissements. Et donc voilà, c'est un peu toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est par des biais différents, mais tout ça a toujours été autour de chez moi, ou aussi je suis allée un peu plus sur la côte, plus près des plages du débarquement, parce que ça me semblait aussi important d'entendre les personnes qui étaient entre guillemets aux premières loges de cet événement-là.
D'accord. Et les entretiens, enfin, on entend une parole très riche. Donc, je voulais savoir comment, justement, tu avais travaillé les entretiens.
C'est vrai que j'envisageais à chaque fois les rencontres comme des moments, des prototypes, en fait, des moments uniques. Et ça dépendait beaucoup des personnes. Et c'est vrai que je cherchais pas l'efficacité. Donc, j'ai pu rester très longtemps. avec les personnes et ça pouvait... Je savais ce que je voulais, ce qui était dans mon sujet, entre guillemets, mais je les ai laissés parler. En fait, le but était aussi d'être dans un moment d'échange et puis je l'ai bien senti aussi, notamment dans les structures spécialisées. Enfin, les moments comme ça où des personnes de l'extérieur viennent sont quand même assez rares et donc il ne s'agissait pas de passer trop vite. Donc, je n'avais pas vraiment de méthode, j'essaie de revenir sur des moments en particulier. Enfin, en tout cas, c'était jamais très chronologique. Hein. La mémoire est faite de méandres. Je m'en suis vraiment rendu compte. On peut passer presque du coq à l'âne, puis après revenir. Et donc, j'essaie toujours de, quand quelque chose m'avait interpellé, d'y revenir plus tard. Puis toujours, ce que j'essaie quand même, c'est de pousser à ce que le souvenir prenne une forme visuelle, sonore, enfin une forme des sensations, enfin qu'on sente les sensations en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément au premier abord que les personnes arrivent à être aussi proches dans l'incarnation du souvenir. Donc c'est enfin avec un temps précis passé à essayer de faire émerger toutes ces sensations quoi en fait. Plus que les faits, voilà.
Comment tu les fais émerger, ces sensations? Parce que l'auditeur les entend bien, mais ce n'est pas forcément facile d'obtenir cette parole rare.
Ouais, bah je pense que je questionne, quoi. J'essaye de visualiser en même temps avec la personne. Donc, c'est vrai qu'après, je coupe mes interventions. Je ne les garde pas au montage, mais c'est ça, c'est... J'essaye d'accompagner, enfin, de dire, on s'arrête un instant, redites-moi, mais comment, et essayer de comprendre, comme une scène en vrai, comme une scène de cinéma, quoi, essayer de comprendre d'où on regarde, ce qu'on entend. C'est une curiosité sincère de ma part, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de comprendre et de me mettre à la place d'eux, et en fait, c'est dans cette recherche-là que ça vient. Y a des personnes qui ont une façon de faire récit très poétique, etc. Et ça me plaît aussi, ces rencontres-là, quand il y a des personnes chez qui c'est inné, en fait. J'ai été face à des gens qui avaient un début d'Alzheimer ou une forme de sénilité liée à la vieillesse. Et c'est frappant de voir comment... l'enfance s'imprime quand même dans la mémoire et qu'il y a quelque chose qui jaillit comme ça, de frais, comme si c'était immortel, cette partie-là d'une vie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup émue, en fait. de faire ce constat-là que quelque chose reste intact, en fait.
Et est-ce qu'il y a des choses qu'ils t'ont livrées et qui t'ont étonné, qui ne correspondaient pas à ce à quoi tu t'étais attendu ou préparé ou que tu ne pensais pas trouver?
Oui, individuellement, il y a des choses. Et après, collectivement, ce qui m'a frappé, c'est quand même la... C'est beaucoup revenu que les Allemands, même s'ils les effrayaient parce que voilà, c'était l'ennemi, c'était aussi des hommes en uniforme qui parlaient une langue étrangère, qu'à côté de ça, dans leur comportement, ils les ont trouvés corrects, comme ils disent. C'est-à-dire que ça m'a surpris quand même d'entendre chez une bonne partie, mais pas tous, d'ailleurs on l'entend dans le documentaire, ils n'ont pas tous ressenti là, mais d'une forme de cohabitation forcée et pas, enfin, entre guillemets, pas tyrannique. Mais donc ça a été quand même quelque chose que j'ai souhaité quand même mettre dans le documentaire. C'est-à-dire que j'ai senti plus de traumatisme lié à la présence des Américains que à celle des Allemands. C'était étonnant.
Est-ce que tu as pu le faire écouter aux participants?
Alors oui, et puis j'avais même, en fait, à chaque fois, l'intégralité de l'échange, je le mets sur CD et je le donne à la personne qui peut le faire suivre à sa famille, parce qu'il y avait un peu cette envie-là aussi, quoi, de laisser une trace pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et après, j'ai pas eu de retour, en fait. Ils l'ont entendu, une partie d'entre eux. Bon, certains sont morts aussi depuis. Mais c'est vrai que j'ai pas eu leur retour dessus. C'est quelque chose qui me manque, ça. Ouais. Et ce qui m'a frappée, c'est la dame qui raconte l'arrestation de son père et qui n'est jamais revenue. Ça a été un moment très fort, l'entretien, parce qu'il y avait plusieurs personnes de sa famille qui avaient souhaité être présentes pour l'entretien. Et en fait, des membres de la famille m'ont dit après, mais en fait, j'avais jamais eu autant d'éléments sur cette histoire. Elle n'en avait jamais autant parlé, en vrai. Donc le documentaire a permis de comprendre et d'entendre des choses qui n'avaient pas circulé forcément dans cette famille.
Oui, parce qu'elle le raconte effectivement vraiment avec son regard d'enfant et sa parole d'enfant.
Oui.
C'est effectivement un moment très fort.
Oui.
Bien, est-ce que tu as d'autres projets, Laurine, sur quoi tu travailles en ce moment?
Côté son, oui, je prépare un documentaire sonore avec France Culture sur les trains de nuit. Voilà, je vais rester vague. et j'ai d'autres idées en écriture. Voilà. Et par ailleurs, je travaille aussi sur des scénarios de fiction, mais de fiction film, voilà.
D'accord. Et où est-ce qu'on peut écouter tes œuvres?
Il y a Algérie, elle et lui, qui est un documentaire sonore donc autour des amours contrariés pendant la guerre d'Algérie, donc des appelés et de leurs fiancés. Il est en ligne sur Cube, la plateforme Cube, KUB. Voilà.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup de cet échange. Et puis merci, on sera content d'écouter tes prochaines œuvres.
Oui, mais avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi.
C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Campus Paris 93.9 et sur toutes vos plateformes de podcast. Bonne semaine, dimanche prochain vous retrouverez François Bordonneau et à bientôt sur nos ondes.